Bienvenue sur Globekinners, le podcast qui vous fait découvrir d'autres manières d'appréhender le voyage. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'un voyageur engagé ou d'un acteur du tourisme responsable pour vous donner des conseils et vous inspirer à voyager différemment. On abordera notamment les sujets du changement climatique, de la transition écologique ou encore du mode de vie zéro déchet quand on voyage ou lorsque l'on s'installe à l'étranger. Si vous voulez en savoir plus sur mes invités et retrouver les notes de l'épisode, rendez-vous sur globe-cleaners.com. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois Elsa. J'ai fait sa connaissance sur les réseaux sociaux via des groupes d'intérêt sur l'environnement. On en est venu à échanger au sujet du suremballage au Japon, car elle y avait passé quelques mois et que j'y habite actuellement. Dans cet épisode, on a parlé de comment sont perçus le végétarisme et le véganisme suivant les pays, de l'importance de parler de la protection de l'environnement autour de soi, y compris au travail ou en voyage, pour éveiller les consciences. Elle partage d'ailleurs des astuces pour le faire avec bienveillance et en douceur. On a aussi évoqué la nécessité d'optimiser ses voyages et de limiter ses déplacements en avion, ainsi que de transition écologique et de mode de vie zéro déchet à New York ou au Japon. Vous verrez avec son parcours de voyageuse à quel point s'impliquer auprès des populations locales, même lorsque l'on voyage, peut provoquer de belles rencontres et faire la différence. Je vous laisse découvrir notre échange.
Alors moi, mon nom c'est Elsa Yash. J'habite à New York City depuis bientôt 5 ans. J'ai 31 ans. Dans la vie, je suis manager et formatrice pour un éditeur de logiciels. Mais avant tout, et je me décris depuis peu comme en fait une activiste environnementale, voire même une aventurière environnementale. comme tu l'as dit, je voyage beaucoup depuis 8 ans pour le boulot. Avant, je faisais essentiellement des allers-retours. Et en fait, récemment, j'ai décidé d'arrêter de faire des allers-retours pour optimiser à la base mes déplacements, mais surtout pour éviter l'avion. Je suis partie pour le travail pendant 8 mois en voyage et j'attendais en fait la prochaine destination pour changer de lieu en fait en fonction des besoins dans le monde entier de nos clients. Mes clients, c'est des gens de partout dans le monde. Comme c'est quand même pas soutenable de voyager 100% de ton temps, surtout si t'as une famille ou même en fait, c'est pas possible pour une personne tout le temps. Donc du coup, en fait, on a développé une autre façon de faire des formations. On va faire énormément de la formation en ligne. C'est à la fois super bien pour l'environnement, on perd un peu en contact humain et en fait il y a des chiffres qui montrent que si tu es en face to face, tu apprends beaucoup plus, tu retiens beaucoup plus d'informations. Et l'urgence écologique et le prix aussi fait que ça fait beaucoup plus de sens de le faire en ligne.
Quand est-ce que ça s'est fait pour toi, en fait, cette prise de conscience écologique ?
Alors moi, je suis baignée dedans, en fait, depuis toute petite. Ma maman vient d'une famille très modeste. Du coup, pour elle, en fait, c'était logique de réutiliser, de recycler, de respecter le cycle un peu de la vie. Genre, si tu prends des choses à la terre, tu rends une partie. Ça peut être via du compost, mais via plein d'autres choses aussi. Donc du coup, j'ai été vraiment baignée dans ça. Je me rappelle encore ma mère qui va à la déchetterie à l'époque où il n'y avait pas encore de poubelle de recyclage. Moi, je le prenais comme un jeu, en fait. On recyclait d'un côté le papier, le carton. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas ça chez mes autres copines, tu vois. Et on avait un récupérateur d'eau et donc et évidemment un compost, etc. Donc c'est vrai que j'ai vraiment été baignée dedans. Et quand à la maison, tu n'as pas trop le choix, en fait, tu prends les vêtements des copines ou des gens autour de toi. Tu as beaucoup plus d'entraide aussi. Et donc, la logique consumériste, ça ne m'a pas trop touchée. J'ai jamais été, folle de shopping ou très dépensière. Du coup, voilà, c'est depuis toute petite. Après, il y a 3 ans, j'ai décidé d'être végétarienne. Après avoir vu des vidéos que mon mari en fait a fait, il a décidé de faire une chaîne YouTube et d'investiguer pendant 2 semaines sur un sujet précis. Par exemple, le premier sujet c'était le lait. En fait, je suis engagée vraiment à 100% sur l'écologie depuis 3 ans. Et petit à petit, tu fais des pas un peu plus grands et tu n'as plus peur de dire que tu es activiste. Là, ça fait 2 semaines que je suis végétalienne. Et je suis super contente parce que j'ai l'impression que de plus en plus mes convictions sont alignées avec mes actions. Et ça me rend super heureuse et j'ai super la patate. Et parce qu'en France encore, on a... je me rappelle quand je disais « Ah, je suis végétarienne », les gens me répondaient « J'espère que t'es pas végétalienne ». Genre, comme si, tu vois, c'était la fin du monde si t'étais végétalienne. Et à New York, j'ai pas du tout ce problème, il y a énormément d'options, les gens sont très curieux. Et je vois pas du tout ça comme une restriction, en fait. Et c'est comme dans toutes les solutions écologiques. Parfois, tu peux dire « Ah non, mais il faut que je respecte aussi ça, ça », et tu peux le voir comme une restriction. Moi, je le vois beaucoup plus comme une diversité, un champ de possibles. Et je le vois comme une autre façon de cuisiner. Ça te pousse à connaître plein d'autres choses, plein de nouvelles céréales. Par exemple, le millet, moi, je connaissais pas du tout ce que c'était. Cuisiner du boulgour, parce que du coup, tu dis végétarien, les gens, ils pensent que tu manges du quinoa et du tofu. Mais c'est pas trop que ça, tu vois. Donc du coup, ouais, ça, depuis 3 ans, via une vidéo YouTube, voilà.
Et du coup, tu trouves que c'est plus accepté à New York d'être végétarien ou vegan ? Tu as vu des différences par rapport à la France ?
Ah oui, oui, non, mais même hein, quand je rentre en France, il n'y a pas que sur l'écologie, j'ai l'impression que c'est un pays super misogyne. Mais rien que sur ça, sur le fait de me narguer, en fait, parfois, par exemple, à Noël, on va me dire, on va manger du foie gras, enfin, les gens vont manger du foie gras, ils vont me dire, regarde ce que tu manques. Tu vois, en mode, on me nargue, on met les choses sous le nez, ou on va me montrer des vidéos parfois de barbecue, de viande, etc. Et en fait, les Américains ne feraient jamais ça. Je fais vachement la corrélation avec la clope. En fait, aux États-Unis, si quelqu'un fume à côté de toi, les gens vont dire « Do you mind ?» Genre, est-ce que ça t'embête si je fume à côté, quoi ? En France, limite, les gens te soufflent à la figure, quoi. Donc, c'est vraiment la même image, en fait. C'est juste, je ne vais pas t'embêter dans les choix que tu fais. Au contraire, je vais être curieux, je vais te dire « Ah, mais du coup, tu manges où ? Qu'est-ce que tu manges ? Pourquoi tu as été végétalienne ? Pourquoi tu as fait ces choix ?» Alors qu'en France, c'est vachement un peu dans l'agression et dans... en fait, ils ont l'impression parfois d'être jugés par rapport à leur propre rythme de vie, quoi. Donc, ça leur fait peur d'être végétalien.
C'était comment au Japon ?
Moi, j'ai eu trop du mal. Je t'avoue que c'est une des premières choses que j'ai su dire, c'était je ne mange ni viande ni poisson. Et les gens faisaient une syncope, hein, j'ai l'impression. Ils se disaient, mais qu'est-ce que je vais lui faire à manger ? Alors qu'il y a quand même plein d'options. Et c'est vrai que la clé, c'est quand même la communication. Donc, il faut quand même parler un minimum japonais pour t'en sortir. Sinon, tu te retrouves parfois avec du chicken parce que le poulet, c'est dénué de toute viande. Alors déjà, végétarien, c'est ni poisson ni viande. En France, déjà, il y a l'amalgame. On pense que c'est que la viande. Quand on mange du poisson, c'est pescétarien. Bon, après, on met les gens dans des catégories, mais c'est vraiment pas ça. C'est chacun va à son rythme et va à l'étape où il veut aller. Mais du coup, c'est vrai que le poulet, la plupart du temps, les gens disent « Ah, mais ça va le poulet ?» Bah non, c'est la viande. Et c'est comme le poisson, comme j'ai écouté un podcast super intéressant la dernière fois sur Sea Shepherd, où en fait elle parlait des poissons, que comme c'est dans l'océan, le poisson tu le vois pas comme un animal, tu le vois comme quelque chose d'autre. Et puis comme c'est dans l'océan, tu le vois pas vraiment, c'est pas comme un mammifère ou ton chien où tu peux le caresser, etc. Le poisson, c'est un... En plus, tu as l'expression du poisson qui est con, qui tourne en rond dans son bocal. Donc voilà. Je suis arrivée au Japon, j'étais végétarienne, donc je mangeais ni poisson ni viande. Après, comme j'étais au poisson, c'est quand même une grosse partie de la culture, je me suis remise à manger du poisson au Japon. Et en fait, j'étais pas bien, en fait, j'ai mangé trop vite, trop gras, parce que le poisson, le saumon reste quand même reste gras, et j'avais plus l'habitude de manger aussi gras. Donc du coup, au début, ça m'a fait un peu bizarre de remanger du poisson. Mais comme c'était partie de la culture et que je suis quand même restée 3 mois, surtout avec mes collègues, je me voyais mal leur dire bon bah à chaque fois non, on va dans un resto végétalien, donc du coup j'ai accepté de manger du poisson au moins une ou deux fois par semaine pour découvrir aussi la gastronomie de ce pays incroyable. Donc, mais c'était au début vraiment super dur pour moi de déjà découvrir les aliments, de savoir les cuisiner, etc.
Le voyage, ça a l'air quelque chose d'important pour toi. Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement ?
Alors, personnellement, moi, la chose la plus incroyable que je trouve dans le voyage, c'est me rendre compte que on est tous les mêmes, même si on a des religions différentes, mais même si on a des couleurs différentes, etc. Je trouve qu'on a tous le même sourire, genre dans la plupart des cultures, et je trouve ça incroyable de juste avec un sourire pouvoir partager plein de choses. Et c'est quelque chose qui m'a un tout petit peu perturbée justement au Japon, c'est que les gens sont pas aussi souriants, en tout cas à Tokyo au début, et ça m'a vachement impactée humainement. Voilà. Et ce que ça m'apporte, j'espère une ouverture d'esprit, de savoir appréhender les gens en fonction de qui ils sont ou d'où ils viennent. C'est vrai que on ne pense pas assez à qui on s'adresse, et je trouve ça super important en fait de prendre ce point en compte. En fait, on a un peu un diktat du voyage, c'est que parfois, en fait, on nous a rabâché pendant des années que, en fait, partir en voyage, c'était partir à l'autre bout du monde, sur une plage paradisiaque, sinon c'était pas vraiment profiter de ses vacances. Et je trouve que justement avec l'écologie, on se rend compte que partir à l'autre bout du monde sans connaître au moins nos campagnes, une partie de notre pays, en fait, c'est super important. C'est de privilégier aussi des moyens de transport beaucoup plus écologiques comme le train, et c'est quelque chose que j'ai adoré par exemple au Japon, c'est que tu peux vraiment aller partout, que parfois tu te dis mais comment ça se fait que la ligne elle est encore là, parce qu'il y a on est deux dans le train mais je trouve ça vachement bien ce service de transport qui est toujours là, alors que nous en France on va supprimer des lignes, que les gens vont repartir avec des bus et que ils vont plus utiliser leur voiture, alors qu'on devrait aller dans l'autre sens. Le voyage, c'est pas que le voyage à l'autre bout de la planète. Ça peut être juste partir rien que pour la journée. Moi, je sais qu'à New York, les gens, ça les surprend à chaque fois. Je leur dis toujours, je suis à 1h15 de la mer à vélo et je suis à 1h en train de la montagne. En fait, tous les week-ends, je vais à la plage à vélo, et je trouve ça incroyable de me dire je suis à New York, et là, 1h30 après, t'es au bord de la plage, tu peux faire du surf. Je trouve ça incroyable. Et c'est ça, c'est profiter en fait de ton environnement le plus proche pour essayer d'échapper un peu aux villes et d'en profiter. Donc ça, c'est du voyage, ça fait partie de la découverte de ton environnement. Et les gens, parfois, ils restent dans leur ville et à chaque fois, ils vont passer 2 semaines en vacances à l'autre bout de la planète sans se rendre compte qu'ils ont des richesses à leurs pieds, quoi.
J'ai cette vision des États-Unis où c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer si tu n'as pas de voiture. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vraiment le cas?
Alors ouais, en fait, il y a certains trains qui sont possibles et tu as aussi beaucoup de bus. Par exemple, tu peux faire Washington-Boston en train. J'ai même un copain qui bosse chez Google, qui a fait une démonstration à Google en disant lui il a fait New York San Francisco en train. Alors je crois que ça prend quand même une semaine ou 5 jours. C'est une expérience, quoi. Genre c'est vrai que ça prend du temps, mais c'est super intéressant. Tu vois une autre partie de la population. Genre il disait que en fait il y a quand même des gens qui peuvent pas prendre l'avion parce qu'ils ont été en prison, et donc quand on parle de voyager autrement, c'est aussi voyager avec des gens que t'as pas l'habitude d'être, en fait. Et le problème des vacances à l'autre bout de la planète, c'est que t'as tendance à te mettre en fait avec les mêmes gens qui font à peu près le même boulot que toi, avec le même statut social, on va dire. Et c'est ça aussi le voyage, c'est vraiment la découverte de l'autre. Et tu peux pas le faire si tu sors pas de ta zone de confort. Moi, c'est quelque chose que j'adore aussi. Je suis un peu provocatrice de temps en temps. Mais j'adore, par exemple, arriver chez un client avec mon sac à dos au dos et leur dire que le week-end, je dors dans une auberge de jeunesse. Alors qu'il y a un budget qui me permet de dormir dans un hôtel. Mais en fait, je leur dis que dans une auberge de jeunesse, je vais rencontrer des gens, je vais avoir les gens vont me recommander des endroits. Et je trouve ça incroyable de partager ça avec des personnes. Sinon, mes randos, la plupart du temps, je les fais toute seule, mais de temps en temps, c'est quand même super sympa de partir avec un groupe.
Pour en revenir à ton arrivée à New York, est-ce que tu as eu des bonnes ou des mauvaises surprises par rapport à tes convictions écologiques?
Alors, ça va être comme un peu le Japon. C'est que les sacs plastiques, c'est horrible. Alors, c'est pas autant que le Japon. Au Japon, ils emballent vraiment tout et c'est vraiment un souci d'hygiène, etc. Aux États-Unis, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le double bag. Genre, on ne sait jamais si un craque, on va t'en donner deux. Donc, au lieu de te donner un sac plastique, on t'en donne deux. Et ça, quand t'es française, t'es là, bah non. Et toi, tu montres que t'as ton sac et ils font ah, you are European. Genre, t'es sûre, enfin, t'es européenne parce qu'il n'y a que les Européens pour avoir leur propre bague. Mais en fait, vous êtes trop à la ramasse. Tu vois. Donc, ça, c'est rigolo, mais en même temps. Avec la communication, de plus en plus, les gens sont là. Ah, mais c'est super chouette, bravo. Ils sont très encourageants, tu vois. La plupart des gens, la dernière fois, je suis allée faire mes courses et j'avais tout fait zero waste. Et j'avais pris vraiment rien emballé, etc. Et j'arrive à la caisse et je lui fais, ah, bah, j'ai mon sac. Elle me fait, ah, mais c'est génial. J'aimerais que tout le monde soit comme vous. Tu vois, c'est quand même super fort. Ils sont là, ah, c'est vachement bien. Enfin, du coup, c'est vraiment positif et t'es jamais mal reçu. C'est comme au Japon, quand je leur disais « non, j'ai pas besoin de sac », j'avais appris la formule pour dire « voilà, parce que c'est pour l'environnement, etc. » Et les gens étaient « oh, mais génial !» Enfin, vraiment, ils étaient super contents, quoi. En plus, ça montre que t'es dans leur pays, t'es étrangère et que tu te soucies de l'endroit où tu es. Tu vois, que tu dégrades pas, que t'es respectueuse. Et en fait, je trouve que c'est aussi vachement dans la culture voilà, bon, japonaise, mais aussi américaine aussi, de faire pas que pour toi. C'est un pays super individualiste, mais en même temps, comme c'est super individualiste, ils sont obligés de s'entraider. Surtout pour tout ce qui est, je sais pas, quand t'as des problèmes d'argent, t'as pas d'aide ici. Donc, c'est vraiment la famille, les amis, l'entourage. J'ai découvert le système des food co-op. Donc des coopératives. Et donc là, à New York, moi, j'étais à côté d'une food coop qui a 50 ans. Je trouve ça incroyable. Donc, c'est une sorte d'épicerie où, en fait, tu as plein de produits extraordinaires. Tout est bio, tout est local. Quand c'est pas local, en tout cas, au minimum, c'est bio, c'est fait dans une coopérative, etc. Tout le monde est bénévole. Donc, ça veut dire que tous les bénéfices reviennent, en fait, aux producteurs ou à l'acheminement des produits. Mais comme c'est normalement pas très loin, ça coûte pas très cher. Et j'ai vraiment découvert ça. Et tu peux travailler en tant que bénévole sur place. Et comme ça, t'as une réduction plus importante. Et donc, une année, ils ont eu un problème. Le réfrigérateur est tombé en panne. Et comme ils sont quand même en flux tendu niveau bénéfice, vu qu'ils reversent tout aux producteurs locaux, ils font des appels aux dons. Et là, c'est grâce à un mécène américain qui était dans la rue, qui leur a filé 10 000 dollars. Et je trouve ça incroyable, vraiment, c'est quand tu lèves des fonds aux États-Unis, t'as vraiment l'entraide des gens, ils te supportent vraiment dans tes projets, et c'est ce qui fait que t'as l'impression que tu peux réaliser plein de choses. C'est pour ça que je reste aux États-Unis pour l'instant.
Comment tu as choisi de t'expatrier aux États-Unis?
J'ai pas trop choisi, en fait. j'avais dit à ma boîte, je cherchais un travail, j'avais trouvé une proposition à Londres. Et je voulais être dans un pays anglophone parce que je travaillais vachement en Europe pour des clients. Sauf que quand ils me parlaient en anglais, moi, à la base, je suis L1 plus espagnol. Donc du coup, l'anglais, j'en ai fait comme tout le monde en France, mais j'avais pas un super niveau. Et donc du coup, quand mes clients me faisaient des blagues, je rigolais, mais je comprenais pas trop. Et j'en avais marre, donc je me disais, non, faut absolument que je vive dans un pays anglophone. Et donc j'ai dit à ma boîte, voilà, je suis en train de chercher. Ils me font, mais attends. On peut te proposer d'aller à San Diego. Et comme j'ai vécu un an au Mexique, je m'étais dit, bah super San Diego, je vais être à 1 heure du Mexique, c'est parfait, je vais à la plage tous les week-ends. Et en fait, 6 mois avant de partir, ils m'ont dit, bah non, ce sera pas à San Diego, ce sera à New York. Donc du coup, au début, je me disais pas, waouh, ça va être fou. Et je suis tombée amoureuse de la ville, c'est incroyable, on s'imagine pas que... En fait, New York, quand t'es français, tu vois ça comme une ville avec des buildings... Mais en fait, c'est bien plus que ça. Il y a pour vraiment tous les styles. Tu peux être la personne que tu veux. T'as pas de jugement. T'es pas relooké des pieds à la tête. Tu peux t'habiller vraiment comme tu veux. T'as aucun code. Moi, j'adore.
J'ai vu que tu t'impliquais dans des initiatives à ton niveau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
Déjà, il y a des sites à New York et t'as des groupes super facilement de communautés ou d'initiatives. Moi, quand je voyageais beaucoup, je faisais partie d'un site qui s'appelle New York Cares, où en clair, t'as pas besoin d'être engagé toutes les semaines et tu peux faire des actions sur tout et n'importe quoi. Tu peux aller donner la soupe populaire, tu peux faire du potager, enfin vraiment, t'as vraiment pour tous les styles. Quand je me suis mise à voyager beaucoup, je voulais pas perdre ce côté bénévole que je faisais. Et en fait, à chaque fois que je voyageais, j'ai décidé de, en fait, à chaque fois, de connecter avec des groupes sur Facebook, comme on s'est rencontrés, en fait, ou bien de faire des actions locales, etc. Donc, par exemple, quand je suis allée au Mexique, la dernière fois, je suis allée à Holbox, à la plage, et en fait, j'avais entendu qu'Holbox avait arrêté complètement l'utilisation du plastique, sauf que c'est pas vrai. Il y avait une interdiction des pailles, mais elle n'est pas respectée. Et donc j'étais un peu déçue quand je suis arrivée sur place. Il y avait quand même pas mal de déchets. Donc j'ai décidé de ramasser. Et je suis allée dans un restaurant et je lui ai dit, ah, est-ce que tu... J'ai demandé à la dame si... Enfin, déjà, c'est devenu une super copine. Et je lui ai dit, où est-ce que je pourrais remplir ma gourde? Elle m'avait dit, ah, mais juste à côté, là, tu peux remplir ta gourde pour vraiment pas cher. Et sinon, je lui ai dit, et sinon, est-ce qu'il y aurait des actions pour ramasser des déchets? Parce que moi, j'ai un peu de temps et ça me ferait plaisir, etc. Elle fait, ah, super, génial. Et donc, le lendemain, on avait prévu de ramasser des déchets ensemble. Et du coup, tu rencontres des gens. Ensuite, le lendemain, elle m'a dit, ah, bah, on aurait besoin d'aide dans le centre de tri. Le centre de tri, en fait, c'est juste un centre de tri improvisé dans le jardin d'un activiste environnemental. Où en fait ils ramassent toutes les poubelles du coin, et enfin surtout c'est quand même trié. Donc et c'est là où tu te rends compte que en fait des gens, il y a derrière le recyclage, il y a quand même des gens, et que si tu pouvais leur limiter en fait ce travail quand même qui est parfois ingrat. Bon, c'est fun, on est tous ensemble, on rigole, mais en fait tout simplement parfois il y a des liquides qui sont avec du gaz. Et quand tu l'ouvres, parce que bah, en fait ça explose, donc faut faire attention de ne pas te le mettre dans la figure, de porter des gants. Mais donc du coup j'ai vraiment ce besoin de faire quelque chose, je suis super dynamique, etc. Et donc je les avais aidés, et à chaque fois les gens sont surpris, ils me disaient mais on n'en comprend pas, t'es en vacances, t'es française, en clair c'est pas tes terres, enfin, tu vois, t'as pas ce besoin d'aider quoi. Et je leur disais mais si, enfin, on n'a qu'une planète. Les déchets, ils n'ont pas de frontières, et c'est pour ça que j'aide, mais je vous aide, mais je m'aide moi-même, tu vois, on s'aide chacun, quoi. Comme ça, tu arrives à créer des super relations. Le lendemain, j'étais invitée sur un voilier, le truc que j'avais jamais fait, j'étais trop contente, sur un voilier sunset avec une des nanas qui m'avait dit, ah, mais j'ai un voilier, il me reste une place, tu peux venir avec nous. Donc, ça t'ouvre plein d'opportunités, de toute manière, quand t'aides les gens ou quand tu participes à des actions comme ça, t'as toujours plein de choses, des belles choses qui t'arrivent, je trouve. Voilà. C'est le premier truc que les gens te disent. Ils te disent, mais attends, mais je comprends pas, t'es une activiste environnementale, mais tu prends l'avion. Oui, j'ai une énorme culpabilité par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'en contrepartie, je vais. Investir l'argent dans des assos qui t'aident à contrebalancer ton empreinte carbone, et que je vais faire beaucoup plus d'actions que une personne entre guillemets lambda. Une des choses aussi super importantes, c'est que bah moi je voyage pour mon travail. C'est-à-dire que si je reviens en France, je vais toujours le combiner avec un voyage pro. Je reviens jamais en France. Enfin là, je vais le faire bientôt, mais ça arrive super rarement. J'optimise mes voyages. Je crois que l'année dernière, rien qu'en ne faisant pas d'aller-retour et en me disant, vas-y, je consacre 8 mois à voyager à temps plein, j'ai dû économiser, mais c'est horrible, hein, 24 voyages. Mais après, ce qu'on voit pas, c'est que, et c'est le problème, dans l'écologie, dans notre société, c'est que, en fait, c'est une empreinte carbone d'une société. Et que c'est à la société, à la compagnie, hein, qui devrait faire ses actions pour contrebalancer la pollution qu'il génère. Et c'est comme, je sais pas, quand tu vas au magasin, tu vas acheter plein de trucs empaquetés dans du carton, dans du plastique. Et ben finalement, c'est eux qui décident de l'empaqueter comme ça. Ça devrait être à eux de prendre la responsabilité du recyclage, par exemple. Parce que s'ils prenaient la responsabilité, ben, ils se poseraient bien plus la question de se dire, ah ben mince, je vais les limiter. Comme les sociétés qui polluent les rivières, Coca-Cola, entre autres. Même si c'était pas mon empreinte carbone personnelle, c'était celle de ma société, je suis super, j'ai une conscience professionnelle assez aiguë. Donc du coup, je faisais super attention, et même, voilà, je disais que je suis manager d'une équipe, je fais en sorte que chacun fasse super attention, et je déteste entendre dire. J'ai des collègues qui me disent, ah bah je suis allée à Los Angeles pour un meeting de 4 heures. Et là, je les regarde, et là, j'ai envie d'exploser, hein. Bon, après, j'ai appris à ne plus exploser. Mais je leur dis, mais j'en demande, mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi t'es pas resté plus longtemps? Pourquoi t'as pas optimisé pour voir d'autres clients? T'aurais pas pu le faire en web conference, tu vois? Donc ça, de plus en plus, essayer de le faire comprendre aux gens que le voyage, c'est pas qu'un voyage pour. Tu peux pas faire 4 heures de meeting. C'est pas possible. Ça devrait être interdit. Des questions que j'ai assez souvent, c'est comment faire pour que dans un environnement en entreprise ou dans ta société, sur ton lieu de travail, ce soit de plus en plus respectueux des convictions écologiques, c'est-à-dire ne pas utiliser de plastique, avoir des gourdes, des mugs, etc. La première étape que, à chaque fois que je dis, c'est vraiment se rassembler. Créer un groupe de personnes où tu vas à la cafette, ou je sais pas, si t'as pas de cafette, tu prends un break avec tes collègues. Tu vas voir que certains ont cette affinité aussi, ils se disent mais pourquoi le plastique, etc. Tu essaies de te rassembler, tu crées un petit groupe en interne et tu essaies de mettre, on appelle ça l'office manager aux États-Unis, une assistante qui gère l'espace de travail. Tu essaies de la mettre dans le groupe pour l'impliquer et pour faire en sorte que la personne qui fait les achats ou qui réserve, je sais pas, un traiteur ou quoi que ce soit, et en prenne en compte ces éléments. Donc vraiment, et après, alors moi j'ai un mail type que j'envoie à tout le monde, mais en clair, voilà, c'est faire en sorte de se donner des objectifs. Par exemple, là, on est en juin 2019, se dire bon bah d'ici l'année, d'ici la fin de l'année, eh ben on n'utilise plus de verre en plastique, on fait le recyclage, on achète des mugs pour tout le monde. En plus, les gens sont quand même super contents d'avoir leur petit mug de leur société, enfin, normalement. On achète des couverts, fourchettes, couteaux réutilisables. Idéalement, on a un lave-vaisselle, etc. Donc après, il y a des structures où c'est pas possible. Donc c'est plutôt à l'individu de faire les efforts. Mais en fait, par mimétisme, le fait que tu vois que en fait, il y a une personne qui a ses couverts ou que il a une gourde et que toi, t'es en train de prendre un verre en plastique, bah tu te dis ah ouais mince, je pourrais faire la même chose. Donc inspirer de manière positive, c'est super important. J'espère que je le fais. D'ailleurs, c'est quelque chose que je fais partout. D'ailleurs, à Madrid, ils se souviennent encore de moi. Je les ai aidés à mettre des poubelles de recyclage. J'ai acheté des mugs à tout le monde, en mode cadeau, quoi, genre, parce que c'était pour mon bien-être personnel. À la base, c'était super égoïste. Et en fait, les gens sont super contents. Et c'est vrai que même le PDG de la boîte, il disait, mais mince, oui, j'y ai pas pensé, mais bien sûr, on va continuer. Et c'est juste que parfois, tu te rends pas compte, t'as tes habitudes, ton quotidien, tu prends ta voiture au travail pour faire 20 minutes de trajet, t'arrives, tu te poses pas les questions, en fait. Et quand il y a quelqu'un qui a un peu plus de motivation, qui dit, ah, mais on pourrait faire ci, ça, ça, et que ça te facilite la vie, tu dis, bah, bien sûr. Un tip que je donne aussi aux voyageurs, c'est toujours avoir des cadeaux sur soi. Quand on voyage, parfois on est toujours dans une situation où les gens nous aident beaucoup et en contrepartie d'avoir un petit cadeau. Alors moi c'est toujours des cadeaux écologiques. Je sais pas si tu connais, justement au Japon t'as le mamikaki, c'est le stick en bambou pour te laver les oreilles. C'est mon cadeau préféré. En français je crois que ça a été appelé auriculi. Franchement tu l'offres, les gens déjà ils hallucinent, ils se disent waouh. Et en fait déjà t'as plus besoin de coton-tige, c'est juste un bambou, un bâton en bambou et tu te laves les oreilles avec ça. Moi, c'est mon indispensable. J'ai des cotons réutilisables pour les femmes. J'ai la paille en métal, ça marche super bien. T'as les ustensiles en bambou, enfin, et c'est des cadeaux. Les gens sont super contents. C'est une attention que tu leur fais. Ça, c'est mon type number one de voyageur écolo, c'est d'avoir des cadeaux écolos. Au Japon, je leur ai offert des tote bags parce que tu vois, c'est comme aux États-Unis, ils ont très sacs en plastique pour tout. Ça leur a ouvert les yeux, ils étaient trop contents. Et un mec, il est venu me voir, il m'a dit, mais Elsa, je te promets, je n'utiliserai plus jamais de sacs en plastique de ma vie. Et enfin, moi, c'est des petits bonheurs, des petites victoires tous les jours. Et les gens se disent à chaque fois, non, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Bah ouais, mais en fait, si on le fait tous, non, c'est pas une goutte d'eau, quoi. Quand je suis hébergée gratuitement chez des gens, soit j'ai pas le temps, j'invite au resto, nous un resto végétalien pour leur faire découvrir, ou je leur fais à manger. Souvent je leur fais des crêpes. D'ailleurs, les crêpes avec du lait de riz, ça passe super bien. Ou du lait soja. Il n'y a pas besoin de lait de vache. C'est incroyable, c'est exactement le même goût. J'étais trop contente.
C'est quoi du coup ton plus beau souvenir de voyage ?
Il y en a un que j'adore, c'était en Côte d'Ivoire. J'avais dormi chez l'habitant et déjà, j'ai rencontré l'un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et en fait, je prévoyais d'aller dans une réserve au nord du pays. Et donc, moi, c'est rare que je sache où je vais dormir le soir même. J'aime bien me laisser emporter par les rencontres, voilà. Parfois, je book en avance, mais c'est quand même vachement rare. Et donc, je me dirige vers le nord du pays, je prends le bus le matin. Et là, au bout de 2 heures de bus à peine, on avait pour au moins 7 heures de bus, mais au bout de 2 heures à peine, le bus n'avance pas, quoi. Problème de moteur, ils sont en train de chercher, on est sous un cagnard horrible. Bon, heureusement, il y a quelques arbres et il y a un endroit où manger. Moi, je me dis, bon, je me fais à la mode, je me fais à la mode du pays, quoi. Je vais, j'attends, quoi. Hein. Et si Dieu le veut, on repart. C'est un peu ça, quoi. Donc, attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures ou 5 heures, je commence à perdre patience, quoi. Et en plus, surtout, une chaleur, l'eau, elle est payante, évidemment, il n'y a pas de fontaine, quoi. Et là, je me dis, mais enfin, il y a des enfants, c'est pas possible, quoi. Donc, je vais voir le conducteur de bus, je vais essayer de négocier avec lui pour avoir de l'eau pour les passagers, une bouteille d'eau pour chacun. Là, il me regarde en mal, je suis une extraterrestre, quoi. Et donc, je lui dis non, mais c'est ta responsabilité. Là, y a des enfants, etc. Je vais même voir la police, quoi. Un mec qui faisait, enfin la police, un mec qui fait le trafic, quoi. Je lui dis, je le prends à partie. Je lui dis, voyez bien, là, c'est pas normal. Ça fait 5 heures qu'on attend, quand même. On n'a même pas d'eau, etc. Le mec me dit non, mais vas-y, viens. Il me prend à part. Il me dit non, vas-y, je t'achète une bouteille d'eau que pour toi. Et là, je lui réponds non, mais c'est pas mon problème. C'est le problème de tout le monde. C'est tout le monde ou personne. Bref, je m'emballe et en fait, il est revenu, il m'a acheté 3 petites bouteilles d'eau et je les ai données aux enfants. Et là, j'étais la sauveuse du bus. En même temps, le nouveau bus est venu. Enfin bref, c'était trop bien. Du coup, c'était la fête et jusqu'à la fin du séjour, j'ai été hébergée par des amis, des cousins, des gens du bus. Et c'était une expérience incroyable. Et je voyais, il y avait des 4x4. Avec des blancs à l'intérieur, je me disais ouais, et puis les gens me disaient mais pourquoi t'as pris le bus, quoi, genre pourquoi tu t'es pas loué une bagnole. Jamais, non, mais moi j'ai envie de découvrir le pays, je veux voir comment c'est, je veux voir comment tu galères en fait, parce qu'on se rend pas compte, mais prendre le bus, avoir des galères, c'est ça aussi le voyage. Et moi je suis là pour vivre avec les gens et pas vivre dans un resort à côté de la piscine alors qu'il y a presque pas d'eau dans le pays. Sur les types, en fait, c'est juste ouvrir les yeux et se rendre compte chez soi où est le plastique. Enfin, moi, j'avais décidé il y a plus d'un an de plus avoir de plastique chez moi. Dans la transition écologique, l'idée, c'est pas de jeter tous ces produits. Hein. C'est d'abord, de les finir petit à petit et ça va t'aider en fait à remplacer avec des solutions écologiques. Un de mes problèmes, c'est le mascara. Alors, je pourrais très bien ne plus en mettre. Mais c'est encore un des articles que j'aime bien. Donc j'ai trouvé une nouvelle marque qui est sans déchets, avec une boîte métallique, etc. Donc c'est parfait. Quelque chose de très important qui me tient vraiment à cœur, c'est que l'écologie ou avoir une vie zéro déchet, ça te fait gagner du temps. Mais incroyable. Et les gens ne me croient pas, mais c'est vrai. Juste parce que si vous vous souciez un peu de votre santé, tu peux te rendre compte que, par exemple, pour acheter un dentifrice, tu vas regarder les ingrédients et tu vas te dire, mais en fait, c'est horrible. Et en fait, le faire toi-même, ça te prend 2 secondes. Je te promets, tu racles du savon avec de l'eau, tu fouettes comme une chantilly, ça te fait un dentifrice. Et là, ça t'a pris 2 minutes. Et je trouve ça incroyable qu'avec mon savon, je peux faire du dentifrice, une mousse à raser, je peux me laver. Enfin, avec un produit, j'en fais 36 000. Et je trouve ça incroyable. C'est un peu l'esprit minimaliste. Et ça t'aide à choisir. C'est ridicule, mais d'être végétarien, en fait, c'est super chouette. Parce que sur ta liste où tu devrais avoir que 10 plats, mais t'en proposes 50, t'as que 2 options. Et en fait, c'est une tranquillité d'esprit. Pour laver tes sols, t'as besoin de vinaigre blanc et de bicarbonate de sodium. Et juste penser qu'avec un produit, tu peux presque tout faire. Non, mais c'est juste la vie, quoi. Et que ce produit soit équitable, que ton confort n'est pas au prix de quelqu'un. Moi, je signe. Moi, j'adore. Je fais partie d'un groupe de nanas à New York qui sont francophones. C'est un réseau qui s'appelle She for She, qui a été créé par Valériane Demullier, qui est une copine belge à moi. Et en fait, elle a créé des groupes en interne en mode selon les affinités. Donc, il y avait... l'écologie et plein d'autres groupes, quoi, le sport, la culture. On avait commencé à se donner une liste de comment faire les premiers pas, tu vois, quelles sont les solutions, tu vois, pour quand t'as tes règles, par exemple, bah, la coupe menstruelle, les culottes, comment tu fais pour plein de choses, je sais pas, ton nettoyant multisurface, tu vois, moi je fais macérer des plures de clémentine, agrumes dans du vinaigre blanc et après je le dilue un peu dans l'eau et bon, bref, plein de recettes comme ça, tout le monde me demandait et je me disais, je perds un temps fou à chaque fois à faire des copier-coller de ce que j'avais. Et je me suis dit, bah, autant créer un wiki. Je voulais que ce soit un wiki collaboratif où tout le monde puisse participer, mettre ses idées, etc. J'ai fait un Google site et il faut juste avoir le lien. Et comme ça, tu peux aussi normalement modifier, mettre tes trucs. Par exemple, ton dentifrice, le truc que j'ai dit, la savon, moi, ouais. J'aime bien le faire. J'aime bien le faire 3 mois. En fait, après, je change de recette. C'est vraiment pas... En plus, ça dépend de tes goûts. Ça se trouve, toi, t'aimes pas du tout la sensation de savon dans la bouche. Ça peut ne pas te plaire et t'as d'autres formules. Le déodorant, c'est pareil. Tu peux te le faire. Alors, moi, je me dis, mais t'imagines faire son déodorant, ça doit être horrible, trop compliqué. Mais non, c'est trop simple. Voilà. Et c'est ça qui est super chouette. Tu joues avec les ingrédients et c'est des ingrédients que tu connais, c'est transparent. Tu sais qu'il n'y a pas du E442. Tu comprends tous les ingrédients que tu mets, quoi. Alors moi, j'ai vraiment 2 podcasts préférés, adorés. Alors c'est la première fois que je faisais ça de ma vie. J'ai même écrit une lettre d'amour à Alexa Soyeux, qui est la créatrice du podcast qui s'appelle Présage, avec un S. J'adore ce podcast. Il est vraiment sur la transition écologique. En fait, elle a une question toujours répétitive qui est pas comme les autres. C'est comment vous faites pour cultiver la joie? Elle interviewe vraiment des gens complètement différents. Le ton est très doux et ça te fait apprendre plein de choses. C'est la transition écologique le deuxième, mais c'est aussi essayer de comprendre le monde dans lequel on vit et ça parle aussi beaucoup de transition écologique. C'est un podcast qui s'appelle, c'est aussi une chaîne YouTube, Thinkerview. Et vraiment, enfin moi je suis extrêmement fan. Les questions peuvent paraître un peu très froides, mais c'est fait exprès. C'est pour voir la lucidité des gens et comment ils réagissent. C'est super. Ouais, voilà.
J'espère que cet épisode vous a plu. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer vos suggestions d'invités ou me faire part de vos remarques et feedback par email. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me le faire savoir en vous abonnant et en laissant un avis sur votre appli préférée. À la prochaine !